VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 10h en temps universel. Bonjour à tous. Le secrétaire d'État américain doit clôturer aujourd'hui sa tournée régionale à Oman. Mike Pompeo n'ira donc pas au Koweït comme prévu demain mardi, étant obligé de rentrer aux États-Unis pour assister à des funérailles familiales, a indiqué aujourd'hui un porte-parole américain à Riyad. Avant le Golfe, le chef de la diplomatie américaine s'est rendu en Jordanie, en Irak et en Égypte. Après Bahreïn, il s'est rendu aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie Saoudite. La Turquie a affirmé aujourd'hui qu'elle continuerait de combattre la milice kurde en Syrie, soutenue par Washington, faisant fi des avertissements de Donald Trump menaçant de dévaster l'économie turque en cas d'attaque d'Ankara sur les forces kurdes après le retrait américain. La Turquie menace depuis plusieurs semaines de lancer une nouvelle offensive contre les unités de protection du peuple, les YPJ, un groupe armé kurde considéré comme terroriste par Ankara, mais appuyé par Washington dans la lutte contre l'organisation État islamique. Répondant directement au tweet du président américain, le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a déclaré que les terroristes ne peuvent pas être vos partenaires et alliés. Il n'y a aucune différence entre l'État islamique et les YPJ. Nous continuerons de les combattre tous. Ici même aux États-Unis, l'un des plus grands alliés du président Trump au Sénat, le républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud, lui a recommandé hier de rouvrir au moins temporairement le gouvernement fédéral et de négocier avec les démocrates sa requête sur le financement de la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. M. Graham a dit hier sur Fox News qu'il est prêt à appuyer la déclaration d'une urgence nationale par le président américain après avoir donné une autre chance à la négociation. La fermeture partielle du gouvernement qui a fait quelques 800 000 employés est aujourd'hui à son 24e jour.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Sur le continent, la Communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, la SADC, s'est prononcée en faveur d'un recomptage des voix de la présidentielle controversée du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo pour, dit-elle, rassurer les vainqueurs et les perdants. Le président zambien Edgar Lungu, président en exercice de la SADC, a par ailleurs appelé les dirigeants congolais à considérer un accord politique négocié en vue d'un gouvernement inclusif. Timothée Donangmaï a recueilli à ce propos la réaction de Dani Aïda, représentant du National Democratic Institute, le NDI, à Kinshasa.
Il y a eu beaucoup de concertations entre les chefs d'État de la SADC entre-temps à propos de la crise et je crois même qu'ils ont retardé la rencontre du Conseil de sécurité sur le Congo. Alors cette préconisation faite par le président de la SADC démontre que la SADC apporte une attention particulière à cette crise et vu que le contentieux n'est pas encore épuisé, je pense que c'est une proposition qui peut être considérée par les parties prenantes du processus électoral en RDC actuellement.
Quel est le poids de la SADC dans ce dossier?
La RDC fait partie de la SADC. La SADC a des contacts assez bons avec les différents protagonistes de la crise congolaise qui s'agisse de l'opposition ou du gouvernement du président Kabila. Donc, je pense que la façon assez sage avec laquelle la SADC a joué jusqu'à aujourd'hui peut faire attendre à ce que cette proposition puisse être prise en compte. Si elle n'est pas acceptée, au moins qu'elle soit traitée avec une certaine déférence, à la différence de certaines positions étrangères qui ont été considérées par le gouvernement congolais à ce moment comme une ingérence.
Dani Aïda, représentant du National Democratic Institute, NDI, à Kinshasa. Des manifestations ont éclaté aujourd'hui dans les deux principales villes du Zimbabwe, la capitale Harare et Bulawayo, pour protester contre la forte hausse des prix de l'essence décrétée par le gouvernement sur fond de grave crise économique. Le président Emmerson Mnangagwa a annoncé samedi soir le doublement des prix des carburants pour tenter d'enrayer sa plus grave pénurie de pétrole dans le pays depuis 10 ans. Cette mesure a suscité de vives contestations dans tout le pays et la principale centrale syndicale du pays a appelé la population à une grève de 3 jours. L'économie du Zimbabwe est sortie exsangue du règne autoritaire de 37 ans de Robert Mugabe, contraint à la démission fin 2017 par un coup de force de l'armée. Son successeur Emmerson Mnangagwa promet depuis de relancer l'économie jusque-là sans résultat. Le prochain bulletin d'information, c'est dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.